Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à bord du cargo de Radio Caroline qui aujourd'hui fait claquer au vent un calico qui a pour slogan « Rire pour résister ». Un voyage qui va nous faire naviguer en Ukraine où l'on rit sous les bombes, en Irlande au XVIIIe siècle où un certain Jonathan Swift proposa de manger les enfants puisque le pouvoir les affamait. On évoquera aussi quelques expériences de résistance télévisuelle par le rire à une époque où la censure sévissait et on verra comment résister grâce à la caricature au dessin humoristique de presse de plus en plus en danger. Rire pour résister, quitte aussi le titre d'un récent numéro de la revue Cometa, laquelle, en guise d'édito, a offert ses colonnes à notre compatriote Charline Vanhoenacker, humoriste et satiriste phare de France Inter. Elle y écrit ceci. Il m'apparaît aujourd'hui que dès qu'on rit, on résiste. On l'apprend au fond de la classe, se moquer du prof, c'est défier son autorité. Plus tard, aux enterrements, on réprime un fou rire parce que la pulsion de vie défie la mort. Une résistance passive, réflexe, innée, mais à considérer puisqu'elle nous aide à surmonter. Et quand le rire est satirique, il renverse symboliquement les dominations, le temps d'un spectacle ou d'une chronique à la radio. Mais alors, qui sont les Jean Moulin de la poilade? Sans doute ceux qui, maniant l'humour, bravent les interdits pour réveiller les consciences opprimées. C'est une arme légère, mais redoutable, car on met toujours les rieurs de son côté. Le pouvoir s'exprime au premier degré, il est hermétique au second, qui devient alors un langage alternatif. L'humour permet de s'exprimer sans prendre de précautions et s'il vise juste, il peut davantage approcher la réalité. Que peut le pouvoir si la lutte est irrésistible? Se demandait donc Charline Vanhoenacker dans ce numéro de la revue Cometa avec un K. Toujours dans celle-ci, évocation du rire pour supporter, surmonter le pire, c'est-à-dire la guerre, la mort. Vitali Chepinoga, un blogueur ukrainien, raconte « 24 février 2022, Moscou vient d'attaquer l'Ukraine. Les troupes russes venues du Bélarus avancent à toute vitesse sur Kiev. Les habitants fuient vers l'ouest. Dans une famille de Boutcha, petite ville de banlieue, une vieille dame est décédée de sa belle mort la veille. Ses proches décident de l'enterrer plus tard. Ils roulent son corps dans un tapis et l'attachent sur le toit de la voiture. Mais le tapis est volé pendant le voyage avec la grand-mère. On ne l'a jamais retrouvée. Cette histoire épouvantable qui semble tout droit sortie d'un film d'Emir Kusturica a fait rire toute l'Ukraine, écrit ce blogueur qui poursuit. La guerre nous a appris à plaisanter autrement. Notre humour est surtout noir et il nous suffit. On rit. Sous les bombes et les missiles, on rit. Lors des attaques ennemies, on rit. Lorsqu'il n'y a plus de lumière parce que les missiles russes ont frappé nos centrales électriques, on rit pour résister, pour survivre. Une amie me raconte, un soir, je me couche toute nue. Une alerte aérienne résonne, je me lève, je remets ma culotte. J'aurais honte qu'on me trouve à poil sous les décombres. Les jeunes ukrainiennes se refont les sourcils, se maquillent les paupières et les cils avant l'arrivée des missiles russes. Si on doit mourir, autant être belle. Les gens ignorent le danger. Une fille appelle sa mère à Dnipro. « Maman, des missiles se dirigent vers la ville, descends vite aux abris. »« D'accord, dès que j'aurai fini de préparer la soupe. » Ou encore, ce paysan, on ne descend à la cave que si c'est une cave à vin. De tout temps, le rire a défié la puissance. Au hasard, on doit l'une des célèbres résistances au pouvoir britannique par l'humour noir à Jonathan Swift, auteur des Voyages de Gulliver, qui, en 1729, s'est fendu d'une modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public. Proposition qui suggérait qu'on les cuisine et qu'on les mange, ces enfants. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais pour rappel, né en Irlande, élevé dans une famille anglicane et éduqué au Trinity College de Dublin, Jonathan Swift rejoint l'Angleterre dès 1689. Il y fait carrière comme secrétaire d'un diplomate, puis après des études de théologie, comme pasteur. pamphlétaire. Il est partisan des Tories, des conservateurs donc, avant que la chute de son parti ne le pousse à revenir en Irlande en 1714. Et dès ce moment, l'un de ses combats sera de défendre les intérêts de sa terre natale et des classes populaires contre la domination et les intérêts de la couronne britannique, accusant notamment l'Angleterre de ponctionner indûment les ressources agricoles de son pays et donc d'affamer les classes défavorisées de la population. Ce qui lui fera écrire l'année suivante, de manière anonyme dans un premier temps, précisons-le, cette modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public. Feignant, dans ce texte cinglant et noir, de prendre les intentions supposées des autorités anglaises au pied de la lettre. Puisqu'on laisse mourir de faim les enfants d'Irlande, c'est que leur vie ne vaut rien. Comment lui donner une valeur ? En instituant le cannibalisme. Et Jonathan Swift n'en restera pas là puisqu'il fera paraître en 1735 la version intégrale non censurée de son chef-d'œuvre Les Voyages de Gulliver, satire de la société de son temps. Une ironie mordante qui inspirera Voltaire pour Candide et nourrira des générations d'écrivains et de satiristes british, Dickens, George Orwell, mais aussi nombre d'humoristes contemporains parmi lesquels, bien sûr, les Monty Python. Ainsi, en 1729, dans sa modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public, Jonathan Swift écrit « Rien n'est plus affligeant que le spectacle de ces mendiants encombrant les rues, les routes et le seuil des masures, suivis de 3, 4 ou 6 enfants en groupe déguenillés qui harcèlent le passant de leurs mains tendues. Ces mères de famille pourraient être d'honnêtes travailleuses. C'est une vérité admise, je crois, par tous les partis, que ce nombre prodigieux d'enfants sur les bras, le dos ou les talons de leur mère est, dans le déplorable état présent du royaume, un très gros ennui supplémentaire. J'en arrive donc à exposer humblement mes propres idées qui, je l'espère, ne soulèveront pas la moindre objection. J'ai connu à Londres un Américain fort compétent, lequel m'a révélé qu'un bébé sain et bien nourri constitue à l'âge d'un an un plat délicieux, riche en calories et hygiénique, qu'il soit préparé à l'étouffée, à la broche, au four ou en pot-au-feu. Et j'ai tout lieu de croire qu'il fournit de même d'excellentes fricassées et d'excellents ragoûts. L'humble plan que je propose est donc le suivant. Sur ce chiffre de 120 000 enfants qui naissent par an dans des familles pauvres, on en réserverait 20 000 pour la reproduction, dont le quart seulement de mâles. On vendrait les 100 000 autres à l'âge de 1 an, on les proposerait à la clientèle la plus riche et distinguée du royaume, non sans prévenir les mères de leur donner le sein à satiété pendant le dernier mois, de manière à les rendre gras, à souhait, pour une bonne table. Si l'on reçoit, on pourra faire 2 plats d'un enfant. Si on dîne en famille, on pourra se contenter d'un quartier, avant ou arrière, lequel, légèrement salé et poivré, fournira un excellent pot-au-feu. J'admets qu'il s'agit d'un comestible cher, et c'est pourquoi je le destine aux propriétaires terriens. Ayant sucé la moelle des pères, ils semblent les plus qualifiés pour manger la chair des fils. Signé Jonathan Swift en 1729.
Radio Caroline. Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Le rire de résistance de Diogène à Charlie Hebdo est un réjouissant abécédaire illustré imaginé par Jean-Michel Ribes. Alors pour vous situer le personnage de Jean-Michel Ribes, il avait monté une première troupe de théâtre au milieu des années 60 avec pour mantra la fantaisie subversive. Dans les années 80, il écrira et réalisera des séries télévisées humoristiques, à commencer par Merci Bernard pour France 3. Puis viendra Ça c'est Palace pour Canal+, offrant au passage à Valérie Lemercier l'un de ses premiers personnages saillants. Après quoi, Jean-Michel Ribes dirigera pendant 21 ans le théâtre du Rond-Point à Paris avec toujours la volonté de secouer le public. Les gens se dérangent pour venir au théâtre, la moindre des choses, c'est qu'on les dérange à notre tour. Dans son livre Le rire de résistance, à la lettre P comme partie d'un rire, il écrit... Sous De Gaulle et Pompidou, l'unique chaîne de télévision considérée comme la voix de la France est soumise à un tatillon contrôle de l'État qui ne tolère guère la dérision exercée à l'encontre de ses institutions et de ses dirigeants. Toutefois, quelques émissions de chansonniers apparaissent, telles que La Boîte à sel en 1958, suivie quelques années plus tard de Ce soir, on égratigne. La Boîte à sel, tout d'abord.
Oh là là là. Regarde ça.
Ah, dis donc, je viens de voir le patron qui m'a dit qu'il fallait absolument ce soir avoir des nouvelles très très courtes.
Bah, écoute, regarde ce qui vient d'arriver.
Faut couper, mon petit.
J'en ai déjà sélectionné quelques-unes.
Bon, bah, faut couper dedans si c'est trop long parce qu'il faut qu'on fasse très 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 vite. Hein.
Bon, bah, on va essayer. Écoute, j'en ai une qui fait le ministre de l'Agriculture a été reçu à Angoulême par 1000 cultivateurs qui manifestèrent leur violente réprobation.
Oui, il y a qu'à raccourcir là-dedans, t'as qu'à mettre. Le ministre de l'Agriculture a été reçu à Angoulême par 1000 cultivateurs.
Oui, c'est vrai. Tu as... Alors attends, j'en ai
Ah, bah, c'est la suite, ça. Plus tard, le préfet régional a démarqué au milieu des huets et des colibets, dehors, devant la gare, des manifestants applaudir les perturbateurs. Bon, oh, bah, ça, c'est on pas... comprend pas très bien.
Non, c'est un peu long comme phrase, c'est un peu tarabiscoté. Là, tu sais pas ce qu'on va faire. On va mettre plus tard, le préfet régional a débarqué, dehors, devant la gare, des manifestants applaudir.
Voilà,
ça suffit, les perturbateurs. C'est pas la peine. Oui, attends, j'ai un truc là. J'ai M. Guimollet a déclaré « Si demain le général de Gaulle reprend sa politique algérienne du 16 septembre, il peut être assuré que nous serons à ses côtés. » C'est encore
Le général de Gaulle peut être assuré que nous serons à ses côtés. Allez, hop, ça suffit. Oh là là là.
Et maintenant, ce soir, on égratigne.
Dans 5 jours, là, hop, il va faire la valise.
Ah, vous n'allez pas voter pour lui cette fois-ci.
Moi, je ne vote pas pour lui. Moi, il m'a eu la dernière fois. Électoralement parlant, j'ai donné dans le panneau, mais cette fois-ci, il m'aura pas.
Ces émissions sont assez vite retirées de l'antenne, poursuit Jean-Michel Ribe. 3 petits tours et puis s'en vont. En 1963, objet télévisuel non identifié, une comète subversive voit le jour. Ce sont les raisins verts mitonnés à la sauce aigre douce par Jean-Christophe Averty, rêveur patenté et provocateur talentueux. Dominé par l'humour surréaliste et l'esprit pataphysique, cette série, où Averty passe à chaque émission un poupon à la moulinette, fait scandale. Tiens, la moulinette, Jonathan Swift n'y avait pas pensé. Après mai 68, les barricades tombent, celles de la bienséance et des connivences hypocrites aussi. Et les cafés-théâtres se font l'écho de cette liberté de ton toute neuve. Les rêves de révolution sociale se sont évanouis, mais le vent de l'insubordination souffle toujours dans les petites salles de spectacle. En lutte contre une médiocrité ambiante, indexée sur le profit financier, quelques comiques tendent un miroir peu reluisant à cette société cynique qui tient toujours en lisière les marginaux et les réprouvés. Il ne fait pas toujours bon de mettre les pieds dans le plat et de brocarder le conformisme béat et l'ordre social. Lancé par François Cavanna et le professeur Choron en octobre 1960, Harakiri, le journal bête et méchant, d'abord mensuel puis hebdomadaire et promu par le slogan « Si vous ne pouvez pas l'acheter, volez-le », l'apprend à ses dépens. En novembre 1970, il est interdit de publication par le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, pour avoir titré à la une, après la mort du général de Gaulle, « Balle tragique à Colombey, un mort ». Pour rappel, cette phrase « balle tragique à Colombey, un mort » associait ironiquement l'incendie meurtrier d'une discothèque qui avait fait 146 morts le 1er novembre 1970 au décès, quelques jours plus tard, chez lui, à Colombey-les-Deux-Églises, du général de Gaulle, l'émotion provoquée par cette disparition éclipsant celle suscitée par les 146 morts de l'incendie de la discothèque. Harakiri interdit par les autorités, soi-disant pour d'autres raisons, mais en réalité pour celle-là, son équipe déclinera son Charlie mensuel, qui est une revue de bande dessinée, en Charlie Hebdo. Pour en revenir à Jean-Michel Ribes, il dit aussi dans un autre de ses livres « L'homme a souvent du respect et de la gratitude pour tous ceux qui, parfois, au péril de leur vie, arme à la main, l'ont débarrassé de l'envahisseur, du barbare ou du tyran. Mais il est d'autres libérateurs que l'on oublie, sans fusil ni canon, mais par impertinence, espièglerie, satire, comédie, humour, joyeuse iconoclastie, ils ont résisté par le rire à toutes les dictatures du raisonnement tueuse de pensée, à l'étouffement du formatage, à cette réalité obligatoire que l'on nous dit définitive. » Par le rire, ils ont fait trébucher la violence, dérailler l'impérialisme, tous les impérialismes, celui du bon et du mauvais goût, les intégrismes, et par bombe rigolarde, ils sont parvenus à fendre l'esprit de sérieux, cholestérol de l'imaginaire qui, à force de certitude, a fini par boucher les idées. C'est le rire qui fait passer les lumières, fendillant le bon sens qui nous noie dans la tiédeur du consensus. Écrit donc encore Jean-Michel Ribes. Le rire de résistance passe aussi, on le sait, par la caricature, le dessin de presse politique. Mais pour combien de temps encore ? Il y a quelques mois, Yves Frémion, ancien pilier de la revue Fluide Glacial, publiait chez Glénat de la caricature à Charlie Hebdo, histoire du dessin politique et d'actualité 1830-2015. Cette histoire est celle du dessin politique libre ou contraint selon les années qui passent et celle des créateurs qui durent parfois inventer et contourner les désidérata des pouvoirs en place, écrit-il en préambule. Interrogé sur l'état de santé de la caricature aujourd'hui, il lance lors d'un entretien, il est consternant. Il reste très peu de dessinateurs affiliés à des journaux. Il règne une espèce de peur généralisée. Hormis les périodes de censure absolue, comme sous les règnes de Napoléon III ou pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais connu ça. Et il faut savoir que la plupart des dessinateurs de presse aujourd'hui ne gagnent pas leur vie. Ils font autant de dessins qu'avant, mais ils sont obligés de les publier sur des sites dédiés sur le net, ce qui ne leur rapporte rien. Les dessins les plus virulents sont mis sous le tapis, poursuit Yves Frémion, comme une sorte d'affadissement. Un punch qu'on ne laisse plus s'exprimer. L'autocensure est absolument partout. Même chez les dessinateurs qui savent que personne ne publiera certains de leurs dessins trop polémiques. Il y a quelques années, je dirigeais un magazine où je ne pouvais pas payer les gens au départ. Et j'avais demandé aux dessinateurs de ne pas dessiner pour moi, mais de me donner les dessins refusés par les journaux. Et j'ai publié les meilleurs de Paris, les plus virulents, pertinents et critiques. C'était avant l'attentat du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo. À propos de l'incidence d'Internet sur cette évolution, Yves Frémion avance. Certes, on a perdu la légèreté depuis que les Kalachnikovs ont parlé, mais le principal problème, selon moi, ne demeure plus dans les clivages politiques, générationnels ou sociétaux, mais dans celui de ceux qui se prennent au sérieux et de ceux qui décident de rire. Internet a tout fait exploser. À partir du moment où n'importe quelle personne anonyme peut, avec l'aide d'un algorithme, faire croire que le monde entier est en train de vomir sur tel dessinateur parce qu'il a dessiné ceci ou cela, et que tout le monde croit à cette arnaque, le mal est fait. Pour ma part, je ne suis sur aucun réseau social. Ce monde de l'âge, je le fuis comme la peste. Si les gens signaient de leur nom, je prendrais en compte leurs propos. Et l'auteur de cette histoire du dessin de presse de conclure, la période est particulièrement difficile, mais le dessin de presse se relèvera une fois encore. Le tout étant de savoir quand, dans 5, 50 ans, un siècle, on est dans un moment où la démocratie a peur de ses propres bouffons et du coup, elle les élimine en ne les publiant plus. En 2019, suite à la publication d'un dessin au relent antisémite, le New York Times annonçait qu'il ne publierait plus de dessins politiques dans son édition internationale. Le quotidien indiquant pour se justifier que l'idée de se passer de caricature était dans l'air depuis un moment. Le cartooniste suisse Patrick Chapat, qui collaborait avec le quotidien new-yorkais depuis plus de 20 ans, regrettera évidemment cette décision à cause, dit-il, d'un seul dessin qui n'aurait jamais dû être publié dans le meilleur journal du monde. Aux États-Unis, toujours, en janvier 2025, c'est une caricaturiste du Washington Post, Anne Telness, qui démissionnait après avoir été censurée parce qu'elle représentait Mark Zuckerberg, Sam Altman, PDG de OpenAI, Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, et Mickey se prosternant aux pieds de Trump, lui tendant des sacs d'argent au moment de son investiture. Une démission courageuse qui vaudra à la dessinatrice de décrocher le prestigieux prix Pulitzer 2025. Le 8 février 2026, c'est le boss du journal du Washington Post qui quittait le navire après l'annonce de Jeff Bezos de la suppression d'environ 300 journalistes sur 800, et ce dans un contexte de rapprochement entre ce dernier et Donald Trump, un président qui, on le sait, ne cesse d'attaquer la presse traditionnelle depuis son retour au pouvoir. Anne Telness, ex-Washington Post, et Patrick Chapat, ex-International New York Times, viennent d'ailleurs de publier « Censure en Amérique » aux éditions Les Arènes BD. Heureusement, certains résistent encore, chez nous notamment, je ne vais pas les citer de peur d'en oublier, mais vous les connaissez, mais également chez nos voisins français. Et parmi les résistantes, au propre comme au figuré, une autre femme, Coco, dont on retrouve les dessins provocateurs et potages dans le quotidien Libération, ainsi que dans Charlie Hebdo, auquel, rare survivante des attentats du 7 janvier 2015, elle collabore depuis pas loin de 20 ans. L'esprit Charlie, a-t-elle récemment expliqué à Daniel Couvreur du Soir, c'est de ne pas renoncer, d'apporter une réponse politique de rire, de liberté, de réflexion sur le monde. Je dessine dans une veine purement satirique chez Charlie, où la rédaction cultive l'esprit critique et une forme de férocité, d'insolence dans le dessin, qui doit être original et impactant. Que l'on traite de la guerre en Ukraine, à Gaza, des intolérances religieuses, des problèmes écologiques ou de MeToo, notre seule limite, c'est la loi. Nous dessinons librement, sans injurier, ni diffamer, ni discriminer. C'est jouissif. Chacun est libre de dessiner comme il veut, mais nous ne sommes pas des irresponsables. Nous ne faisons qu'appliquer notre droit. Coco, donc, dessinatrice pour Libé et Charlie Hebdo. Un droit qui, bien sûr, n'existe pas dans les dictatures. Un hors-série du magazine Le Point, titré lui aussi « Rire pour résister », a récemment rencontré Justin Wong, un caricaturiste originaire de Hong Kong, exilé en Grande-Bretagne. À la question « Quand le dessin de presse est-il apparu comme forme de résistance au Parti communiste chinois ?», le caricaturiste Justin Wong, originaire de Hong Kong, explique dans Le Point, dans ce hors-série « Le rire pour résister », que les caricatures ont une longue histoire en Chine, d'où viennent certains dessinateurs de Hong Kong. Cette culture de la caricature made in Hong Kong, d'abord inspirée par le dessin de presse occidental et en particulier par le magazine britannique Punch, s'est ensuite développée dans les années 80 à l'approche de la rétrocession de la colonie à la Chine. Justin Wong, qui a débuté en 2006 dans la revue Ming Pao, est, lui, le premier d'une nouvelle vague qui a surtout émergé à partir de 2014 lors du mouvement des parapluies utilisé par les manifestants pour se protéger des gaz lacrymogènes. Dès ce moment, les caricatures humoristiques et politiques ont eu pour fonction de motiver le peuple. Le mouvement était connu pour son organisation sans dirigeant, précise-t-il. Comment un tel mouvement sans chef peut-il se coordonner et prendre des décisions ? Internet et les médias servaient de plateforme, de débat, et les images et dessins étaient utilisés pour lancer des appels à manifester. Les manifestants étaient sous pression, et ces images pouvaient aussi les réconforter. Elles se trouvaient un peu partout sur les murs de la ville. Si plusieurs caricaturistes de Hong Kong ont été contraints de déposer leur crayon, Justin Wong, se sentant en danger, a dû, lui, fuir le pays. Tout a commencé en septembre 2021 avec une caricature portant sur une dispute entre la police et une association, dessin qui se moquait de la police. En réaction, les autorités ont entamé une campagne de dénigrement contre lui, notamment auprès de l'université dans laquelle il travaillait comme chercheur. « J'étais obligé de m'excuser et j'ai dû arrêter de dessiner des caricatures politiques », raconte Justin Wong, même si je travaille encore pour Ming Pao. J'ai alors déposé une demande de visa avec procédure accélérée pour partir au Royaume-Uni et celle-ci obtenue, comme je me sentais en danger, je suis très vite parti. Au début, une fois installé en Angleterre, je n'avais plus le moral pour me battre, d'autant qu'il est difficile de parler de Hong Kong à distance. J'ai donc d'abord décidé d'arrêter. Mais depuis que Sun Tzu, l'un des pionniers du dessin de presse à Hong Kong, a été forcé de poser le crayon, il n'y a plus de caricature politique dans ce pays. Or, j'aime cette forme d'expression. Alors, même si mon travail n'a plus le même impact et n'est plus publié dans un journal, j'ai repris les caricatures. Si j'abandonnais maintenant, je ne reprendrai plus jamais le crayon. Un jour, peut-être, les caricaturistes pourront travailler de nouveau, librement, à Hong Kong. Il s'agit d'ici là de perpétuer la tradition, l'héritage de Sun Tzu et des caricaturistes hongkongais. Sans cela, tout aura disparu. Pour toujours. Notre voyage à travers le rire et la résistance se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager et à l'étoiler. Belle nuit ou belle journée. Radio
Caroline. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.